Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous y sommes, il est 7h09, un grand bonjour à vous, bon dimanche sur RMC en ce 22 novembre 2020, c'est parti pour vos 3 heures d'auto dominicale. J'espère que vous allez bien, Jean-Luc Moreau est à mes côtés et croyez-moi, vu ces petites blagues faites juste avant les informations, on s'apprête à voir quand même de grands moments. Comment ça va Jean-Luc ?
Bah bien, bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Je suis en train de me poser la question, si on peut désinfecter de manière flash les voitures, est-ce qu'on pourrait aussi de temps en temps le faire sur vous ?
On peut toujours essayer. Bon, alors ça marche pas avec une lampe à bronzer, même si c'est des UV. Hein.
C'est des UV.
Parce que sur le principe, c'est des UV, vous verrez. Mais on en avait beaucoup parlé avec Christian Riquien, même, qui en a parlé, je crois, la semaine dernière.
Tout à fait.
C'est une solution française, mon bon monsieur.
Il y a eu des hôpitaux hein, qui désinfectent certains outils ou certaines pièces avec cette technologie. On en parlera tout à l'heure pour désinfecter, pourquoi pas, votre voiture. L'influence de la masse sur le freinage, ce sera notre bon plan sécurité. Jean-Luc va tout nous expliquer. Est-ce qu'à partir de 2030, le Royaume-Uni peut arrêter de vendre des voitures thermiques? C'est ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est faisable?
C'est la proposition de Boris Johnson cette semaine, c'est 2030, fin des voitures
thermiques.
C'est dans
10 ans. Alors,
on précisera, et 2035 pour les voitures hybrides.
D'accord, on verra ça, et puis tout à l'heure on replongera un petit peu dans le passé de l'automobile avec les 20 premières voitures de l'année, de 64 à 83,
ouais.
Jean-Luc.
Quel est le point commun entre une Fiat Uno, une Porsche 928 et une Renault 9. Alors la Fuego y est pas.
Non, mais attends, c'est pas possible.
La Fuego n'a pas été élue voiture de l'année. Une injustice terrible.
Mais je crois que là, ce classement a été trafiqué.
Il a été trafiqué sans doute. On demandera à Olivier Bernis, qui est le rédacteur en chef d'Auto Plus Classique, d'essayer de nous expliquer pourquoi la Fuego n'a pas été élue.
Ouais, voilà. La Ford Puma hybride, ça sera l'essai de la semaine. Notre question pas si bête. Qu'est-ce que le grade d'une huile? Et puis, on évoquera ce qui a changé dans le comportement d'achat des automobilistes suite à cette crise du Covid-19. Jean-Luc, on en parlera avec Marie-Laure Niveau tout à l'heure. Et puis, je vous le rappelle, à tout moment, vous pouvez nous joindre au 3216, l'appli RMC Direct Studio.
Et j'osais dire, ça sera une mise à niveau.
Oui, j'osais pas la faire.
Non, mais il y avait le passage à niveau aussi, tu vois.
Oui, c'est sûr. C'est très bien, Jean-Luc. Bravo.
Maintenant, on va
les trois auditeurs qui étaient avec nous sont partis. Donc maintenant, nous sommes entre nous.
On va essayer de relever le niveau.
Oui, à gagner. Heureusement, les questions des auditeurs sont là. Et on attaque avec Jean, qui est avec nous au 32-16. Bonjour Jean.
Oui.
Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Vous n'avez pas raccroché de dépit suite aux blagues de Jean-Luc?
Non, j'ai voulu aller jusqu'au bout.
Eh ben oui, vous savez quoi, parfois il faut savoir se sacrifier comme ça. Et je vous remercie Jean. Vous nous appelez d'où, tiens?
Je vous appelle de Toulouse.
De Toulouse, parfait.
Et on vous écoute. Il fait 0 degré ce matin.
Zéro à Toulouse?
Toulouse même.
Ouais. Eh bien dites-moi.
Donc, bonjour Jean-Luc et bonjour François.
Bonjour Jean.
Et je vous écoute régulièrement. Donc, je vous téléphonais parce que voilà, j'ai un Duster que j'ai acheté en juin 2017 avec un moteur TCE 125 et je voulais savoir à partir de quand s'il y avait eu des modifications pour ce fameux moteur où il y a, comme vous nous avez déjà parlé, pas mal de problèmes. Voilà. Donc, c'était ma première question. Et une deuxième. Qu'est-ce qui se passe si je vends mon véhicule et que ce moteur lâche? Et à l'heure actuelle, j'ai 55 000 km.
Ah, vous êtes juste dans
l'œil du cyclone.
Exactement.
Voilà. Ouais.
Alors, vous savez quoi? Vu qu'on parlait de niveau juste avant, on va continuer. Hein. Je vais vous demander, est-ce que votre voiture, vous vérifiez le niveau d'huile de temps en temps?
De temps en temps, oui.
Est-ce qu'elle mange de l'huile ou pas? Parce que normalement, votre véhicule... Parce que les véhicules qui étaient concernés... Alors, on va réexpliquer ce que c'est que le problème de ce moteur 1,2 litre TCE Renault. En fait, il y avait des problèmes de segmentation, il y avait des problèmes de différentiel de pression entre le bas moteur et le haut moteur. Bref, il mangeait son huile, ce qui peut être un vrai problème.
C'est sûr.
Parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a casse moteur. Et ça commençait réellement à être délicat à partir de 50 000 km. Donc, bien évidemment, il y a des modifications qui ont été faites sur ces moteurs-là à partir de mai 2016. Donc, les moteurs, votre voiture est de 2017, normalement, elle a eu donc une segmentation différente, des réglages différence qui doit baisser la consommation d'huile, mais le problème n'est pas totalement réglé avec ces modifications. Donc c'est pour ça que je vous demande, est-ce que votre voiture consomme de l'huile ?
Entre deux vidanges, j'ai dû faire perdre 1 litre.
Mais au 1000 km, ça correspond à quoi ? Puisque vous faites vos vidanges tous les combien ?
Je fais du vidange plus rapproché, c'est-à-dire, je crois que c'est 20 000 peut-être, je ne sais pas.
D'accord, donc bon, vous faites 1 litre d'huile sur 20 000 km, donc ça va.
Oui.
Ça va. Non,
oui.
On ne peut pas considérer que c'est une consommation excessive d'huile. Alors, si vous vendez votre véhicule, donc, bon, a priori, vous serez épargné par ces pannes-là, de toute façon, vous le saurez assez rapidement, je vous dis, c'est entre 50 et 60 000 km, donc vous devriez normalement pas être touché. Normalement. Maintenant, si vous vendez votre véhicule et que le véhicule tombe en panne juste après, ce n'est pas de votre responsabilité à vous. Hein. Vous n'êtes pas un professionnel, vous n'êtes pas le constructeur. Malheureusement, pour celui qui achètera la voiture après, elle est de 2017, vous m'avez dit.
Elle est de
2017, donc ça va. Il restera. En admettant, quelqu'un qui n'a pas de chance rachète votre voiture, il tombe en panne avec, casse moteur. Donc on en revient au fameux problème qui est aujourd'hui parfaitement identifié. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la garantie légale des vis cachées qui court pendant 5 ans après la vente du véhicule. Donc il a encore 2 ans de protection, entre guillemets, si jamais il y a une panne, mais ce n'est pas de votre responsabilité. Hein. Rassurez-vous de ce côté-là si vous vendez la voiture. Par contre, vous risquez d'avoir un peu de mal à la vendre, parce que ce moteur-là, il a évidemment mauvaise presse et vous êtes dans le kilométrage à risque.
Oui, c'est sûr. Oui.
Donc, vous allez sans doute, vous la vendrez, mais vous la vendrez sans doute pas extrêmement bien.
Il y a une décote importante ou pas ?
Ouais, enfin, une décote importante. Vous savez, c'est toujours, ces moteurs-là, aujourd'hui, les gens, ça y est, le message est quand même bien passé, d'autant que le moteur a été monté sur beaucoup de voitures. Il a été monté chez Renault, chez Dacia, chez Nissan. Les gens aujourd'hui se méfient. Ils savent que ce moteur, 1 litre de TCE, il a été...
Il a été mal conçu.
Oui, il a eu quelques problèmes de fiabilité. Alors, peu importe que les problèmes aient été résolus ou pas, malheureusement, tous les moteurs 1 litre de TCE en pâtissent. Même ceux qui ont été améliorés, les dernières productions, évidemment, qui n'avaient pas les mêmes défauts, souffrent de la même décote sur le marché. Les gens ne vont pas regarder les dates que je vous ai données tout à l'heure. En fait, les modifications ont été effectives à partir du 11 mai 2016. Bon, les gens, ils n'ont pas le 11 mai 2016 en tête.
Est-ce que c'est paru quelque... Pardon, je vous coupe. Est-ce que c'est
oui,
paru
oui, oui, il y a beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Vous savez, UFC Que Choisir avait fait une grande enquête sur ça. Et puis, il y a des associations qui se sont montées spécifiquement justement pour réclamer à Renault des prises en charge. Parce que ce qui s'est passé aussi, il y a eu... Alors, des moteurs qui peuvent avoir un défaut de conception... Il n'y a pas que Renault qu'on a. Il y a tous les constructeurs aujourd'hui, dans la fabrication, enfin dans la conception des nouveaux moteurs, peuvent être confrontés à des problèmes. Ce qui est plus grave dans ce cas-là, c'est la gestion de la crise. C'est-à-dire que Renault s'est un peu caché la tête dans le sable pendant un moment. Il a fallu qu'il y ait des collectifs qui se montent et qui commencent à montrer les dents en les attaquant en justice pour qu'ils reconnaissent qu'effectivement, il y avait un problème. Parce que le défaut était corrigé sans en parler... aux propriétaires des véhicules. D'habitude, ce qui se passe quand on a un problème sur beaucoup de véhicules comme ça, il y a un rappel qui est fait par le constructeur, on modifie les voitures. Mais là, en fait, il y a des reprogrammations qui étaient faites, qui étaient des reprogrammations cachées. Et ça veut dire, on ne va pas reconnaître officiellement qu'il y a un défaut de conception sur le moteur, on va essayer de cacher la merde au chat, voilà, ou cacher...
Ah bah bravo,
voilà. Bon, bah oui. Allez, on va dire cacher la poussière sous le tapis.
C'est
voilà,
très
ça
bien.
Vous va mieux.
Ah, je préfère.
Voilà. Oui. Ils ont essayé de cacher la poussière sous le tapis. Bon, malheureusement, il y avait tellement de poussière que ça faisait une bosse, donc ça s'est vu.
Ça s'est vu.
Voilà. Et c'est plutôt la gestion derrière de cette crise qui n'a pas été bonne. Alors, dans chaque problème, il y a un bien. Le bien, c'est que le moteur d'après, le 1 litre 3 TCE, le 1 litre 2 était tellement miséreux que le 1 litre 3, en fait, est un excellent moteur et jusqu'à présent, il a l'air super fiable. Ça a même c'est, je pense, le plus fiable de sa catégorie. Donc, vous voyez. Un mal pour un bien.
Enfin, donc je surveille l'huile.
Vous surveillez l'huile. Si la conso atteint 0,5 litres au 1000 km, ce qui est déjà beaucoup, hein, beaucoup plus que votre conso actuelle, là, il faudra vous inquiéter. Mais a priori, ça devrait déjà être le cas si votre moteur était concerné par cette panne.
Alors, pour la garantie 5 ans, je risque de passer à côté parce que, pour rien vous cacher, je suis à l'éthanol sans boîtier.
Oui, Jean, voilà, vous avez...
Donc, Alors là, par contre, si vous revendez votre voiture et que le propriétaire d'après a une panne et qu'on fait parler le calculateur, parce que le calculateur,
lui, il parle.
Avec l'alcool, il parle.
Est-ce que ça reste imprégné comme.
Ça reste.
Si on mettait du gasoil rouge.
Ça reste parce que c'est un défaut pour le calculateur. À partir du moment où on lui demande 20% d'enrichissement du mélange, pour lui, c'est pas prévu au départ. Donc oui, il va garder en mémoire cette trace-là. Clairement. Vous roulez avec quoi? Vous faites un mélange ou vous mettez...
Je roule avec ça depuis 30 000 km.
Ah d'accord. Bon, bah écoutez...
J'ai pas de problème à part une consommation un petit peu excessive.
Ah oui. D'autant plus excessive que le moteur n'est pas prévu pour. Donc là, il fait ce qu'il peut.
Ça peut accélérer justement la consommation d'huile.
Faut faire attention quand même sur votre moteur, parce qu'il y a un défaut aussi. Alors, puisqu'il en a un paquet de défauts, ce moteur. Il y a un défaut sur... le capteur de cliquetis, alors c'est le cylindre 2, je crois. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous roulez à l'éthanol, en fait, c'est le capteur de cliquetis qui règle l'avance à l'allumage. C'est un peu technique, mais à partir du moment où ce capteur...
À 7h20, non, c'est pas du tout technique, le capteur de cliquetis.
Voilà, parce qu'on peut mettre plus d'avance à l'allumage avec de l'éthanol, parce que le taux d'octane de l'éthanol est plus élevé. Mais comme le détecteur de cliquetis marche pas... c'est pour ça que vous avez une grosse consommation, parce qu'il ne règle pas l'allumage comme il devrait être réglé.
D'accord.
Donc pensez quand même de temps en temps, tiens, au fait, vous démontez une bougie, vous regardez quelle tête est là. Ça vous donnera une indication sur le fait qu'il supporte ou pas l'alcool, votre moteur. Si la bougie elle est blanche, vous arrêtez de rouler avec 100% d'éthanol.
Il faut qu'elle soit de quelle couleur là?
Il faut qu'elle soit brune, la bougie.
Brune. 7h20, Jean-Luc. Merci en tout cas, Jean, pour votre appel et bon courage avec votre Duster. Il est temps.
Chocolat plus que brune.
Chocolat.
Chocolat.
D'accord.
Voilà. Et chocolat au lait. Voilà.
Chocolat au lait.
Chocolat au lait sans les noisettes.
C'est votre dernier mot,
Jean-Pierre. C'est mon dernier mot.
Vous êtes sûr? Parce qu'on est passé de brune à chocolat, chocolat au lait.
Chocolat au lait. Chocolat au lait.
Très bien. Il est temps de retrouver notre bon plan sécurité.
RMC, votre auto.
Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, essayez.
Jean-Luc Moreau.
Alors, Jean-Luc, on parle beaucoup du poids des voitures ces derniers temps, avec l'adoption récente d'un malus pour les véhicules de plus de 1800 kg à partir de 2021. On en a beaucoup parlé ici. Or, il s'avère que le poids est un handicap en matière de consommation. Est-ce qu'il a une influence sur les distances de freinage?
Alors, c'est une bonne question à laquelle je pense que pas loin de 100% des gens auraient faux à la réponse. D'ailleurs, je vous ai demandé tout à l'heure avec Jérémy ce que vous en pensiez, Jérémy Souliman qui fait la météo. Vous m'avez dit tous les deux, oui, ça a une influence sur le freinage de la voiture. Alors. Le très sérieux magazine allemand Automotor und Sport, c'est la référence européenne sans doute, a déjà démontré à maintes reprises que certains véhicules très lourds et très puissants affichaient des distances d'arrêt bien plus courtes que des voitures plus légères. Alors par exemple, une Audi RS4 freine aussi bien qu'une Alfa Romeo 4C, presque deux fois plus légère. Je précise quand même qu'il s'agit là de deux voitures très sportives.
Alors, j'imagine que ça dépend de la puissance du système de freinage et des pneumatiques sur un même véhicule. Si on augmente le poids, il va forcément freiner moins bien, on est d'accord?
C'est vrai que la théorie nous enseigne que l'énergie cinétique, souvenez-vous, François, vous êtes allé à l'école, vous vous en rappelez, c'est 1,5 de MV2.
Oui.
Ça, forcément, on s'en rappelle.
Je m'en sers tous les jours.
Formule dans laquelle M est la masse. Donc, plus un véhicule est lourd, plus il y a d'énergie cinétique à dissiper lors du freinage. Pour autant, est-ce qu'un véhicule freine beaucoup moins bien lorsqu'il est chargé? Le magazine suisse Sport Auto a décidé de faire des tests sur circuit pour connaître la réponse. Il a utilisé un gros Ford SUV Explorer d'un poids vide de 2,5 tonnes quand même.
Ah oui, un gros bébé qui ne doit déjà pas bien freiner. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il est chargé?
Alors, détrompez-vous, dites, il ne doit pas bien freiner, si. Ce mastodonte, il stoppe en 11 mètres à 50 km/h et en 44 mètres à 100 km/h, ce qui est nettement mieux que la théorie. La théorie, elle indique une distance de freinage de 12 mètres 50 à 50 km/h et 50 mètres à 100 km/h.
Bon, alors ça, c'est à vide, mais quand il est bien chargé.
Bon, alors, on met 6 passagers dedans. Voilà.
Oui.
Enfin, 6 passagers dedans. 75 kg de sable pour matérialiser les bagages. Ça fait 559 kg supplémentaires, ce qui correspond à une augmentation de 22% de la masse du Ford Explorer. Le véhicule stoppe en 11 mètres à 50 km/h, soit la même distance qu'à vide. Exactement la même distance qu'à vide. À 100 km/h, il freine en 45 mètres 50. C'est 1,50 m de plus. Ça, c'est sur le plat. Mais en descente, c'est carrément surprenant. À 80 km/h, le pachyderme freine en 31,50 m. À 100 km/h, soit 1,50 m de moins que ce qui fait à vide en descente.
C'est fou,
c'est pour vous dire. Hein.
Ah ouais.
Et les mesures ont été effectuées 5 fois pour être sûr de la validité des résultats.
Mais est-ce qu'on a une explication à ça ?
Bah oui, parce qu'avec plus de charge sur l'arrière du véhicule, le système de freinage va automatiquement augmenter la puissance de freinage sur l'essieu arrière. Il va répartir plus à l'arrière. Ça augmente, en fait, l'efficacité du freinage. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous allez au contrôle technique qu'une voiture qui freine moyennement bien, vous avez intérêt à mettre toutes les valises de votre femme dans le coffre. Ça équilibrera un peu le freinage.
Est-ce que ça signifie qu'on est plus en sûreté dans un véhicule chargé que dans un véhicule vide ?
Alors non. On ne peut pas négliger l'effet de la charge sur un véhicule. Hein. Si ça n'a pas beaucoup d'incidence en matière de freinage, c'est plutôt étonnant. Hein. Ça en a en revanche beaucoup sur la tenue de route. On peut aussi dire que plus un véhicule est lourd d'origine, moins il sera sensible à une charge importante. En clair, vaut mieux partir en vacances avec toute sa petite famille et plein de bagages dans un SUV que dans une petite berline ou dans une Twingo, par exemple.
D'accord. Voilà ces précisions de Jean-Luc. Il est quasi 7h25. Jérémy Souliman dans un instant pour la météo. Et puis on reviendra. On repart avec vos questions auto au 32-16. Vous êtes déjà très actifs sur Direct Studio. N'hésitez pas à continuer. Vos questions, Alina vous attend au 32-16 bien sûr, ou alors sur votre smartphone avec Direct Studio, vous posez votre question et vous nous laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Il est 7h29, le retour de ce week-end des experts. Un bon dimanche avec nous et un bon réveil à vous. Dans quelques minutes, notre minute verte. Le Royaume-Uni souhaiterait arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2030. Est-ce que c'est envisageable ? 2030, c'est dans 10 ans, hein. 9 ans même. Jean-Luc nous en parlera dans quelques instants. Mais d'ici là, retour à vos questions. Christian nous attend au 32-16. Bonjour,
oui,
Christian. Bonjour, bonjour.
Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Christian. Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Biarritz et je vous confirme la météo. Il fait 1,5 degré ce matin à Biarritz.
Oula, c'est beaucoup plus qu'à Toulouse, hein, où il fait zéro.
Voilà.
Non, mais cela dit, vous êtes passé quoi, de 24 degrés à 1 degré, c'est ça ?
Ah oui, c'est un choc un peu rude, effectivement.
Bon, tant que venez à Paris, si vous voulez.
Ouais, non, je reste au Pays Basque, merci.
Non, mais attendez, regardez, je vais vous dire, il fait 7 degrés à Paris, c'est beaucoup mieux.
Vous avez de la chance.
Ah, on a de la chance, hein.
Bah, absolument.
Non, vous, la mer
vous
est belle,
vous moquez de nous de temps en temps, mais là, vous voyez, il fait presque
bon.
On est en t-shirt à Paris
pas.
Là en ce moment. Et puis, avec 7 degrés.
Je disais la mer est belle à Paris en plus.
La mer est belle.
D'accord. Oui. Ouais. La mer est belle. Oui.
Bah oui, elle s'appelle Anne.
Oui, j'avais compris.
Vous êtes amoureux d'Anne Hidalgo, Jean-Luc?
Non, du tout. Je l'ai écouté hier, tiens, sur BFM TV.
D'accord. C'était bien.
Ouais. Donc clairement, ça y est, elle a dit qu'elle voulait supprimer la voiture dans Paris, donc bon.
Bon, après, ça, c'est un autre débat.
Oui.
On va pas. Attendez, parce que Christian n'est pas là pour ça. Christian veut nous parler de sa coccinelle.
Oui, vous connaissez les aventures de la coccinelle à Monte-Carlo.
Oui.
Je vais vous raconter les aventures de la coccinelle au Pays Basque.
D'accord.
En 2018, j'ai acheté une coccinelle dernière mouture version exclusive. C'était les derniers mois où il les construisait. C'est une voiture essence boîte automatique. Très, très belle. Très, très belle voiture. Le problème, c'est qu'au bout de 2 ou 3 mois, cette voiture est tombée subitement en panne, à savoir que je rentre le soir chez moi, elle garde dans mon jardin, et le lendemain matin, on ne peut plus la faire fonctionner car la batterie était à plat. Premier épisode, il y en a eu 5 comme ça. Le dernier, c'était il y a 3 semaines. Nouvelle panne, nouveau dépannage. Je vous passe les détails. Quand on tombe en panne dans son jardin, c'est pas trop grave. Quand c'est à minuit sur une autoroute, c'est légèrement plus chiant.
Qu'est-ce que vous faites à minuit sur une autoroute, Christian?
Quand même, de chez des amis, nous avions fait bonbons.
Buvant
de l'eau.
Ouais, mais ça c'était avant le confinement, bien évidemment, Christian.
Absolument.
Bien
absolument.
Sûr. Bien sûr.
Donc cette voiture tombe en panne régulièrement. Elle est restée chaque fois entre 2 et 15 jours à la concession Volkswagen. Je voudrais faire une précision. À la concession Volkswagen de Bayonne, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont excessivement aimables. Ils me prêtent chaque fois une voiture. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent toujours pas la panne. Alors, dernière conclusion, lorsque j'ai récupéré cette voiture il y a 4 jours, on m'a conseillé, lorsque je rentrais chez moi, de la fermer à clé. Elle est dans un jardin avec un portail électrique dans mon garage, ce que je ne faisais pas automatiquement. Donc je la ferme à clé car on m'a expliqué que à cause du multiplexage, des parties de la voiture technique, je ne sais pas lesquelles, pouvaient se mettre en route la nuit. Donc j'avais conseillé au chef d'atelier de garder ma voiture une nuit, de dormir dedans.
Mais oui.
Et vers minuit, si subrepticement un consommateur se réveillait,
il tape dessus. Ouais.
Voilà. Alors, ils ont
pas voulu.
Je répète,
ils n'ont pas, voulu chez Volkswagen faire ça.
Christ. La nuit. Ouais. Donc, chez Volkswagen, Bayonne, ils font tout ce qu'ils peuvent. Franchement, c'est un garage, je ne peux pas m'en plaindre. Sauf que j'ai une voiture que j'aime beaucoup parce qu'autrement, je m'en serais débarrassé. Elle a 15 000 km.
Avec
je viens
9,
tout
quoi.
Juste de faire la révision au bout de 2 ans. Ils ont augmenté
la garantie du temps.
La garantie d'un an.
Ouais, d'accord.
Cette panne, ouais. Mais ils ne trouvent pas la panne.
D'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai des questions à vous poser. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de métro qui passe en dessous de votre jardin. On est d'accord.
Ouais, le métro à Bayonne, il est en projet, mais c'est pas pour tout de suite.
Vous n'avez pas une voie ferrée qui est juste en bordure du jardin?
Pas vraiment.
Voilà, vous n'avez pas quelque chose qui fait des grosses vibrations à côté du jardin. Il n'y a pas, du marteau-piqueur en souterrain. Il n'y a pas.
Vous n'avez pas des taupes?
Non, il n'y a pas de taupes. Mais je vais vous dire, la dernière fois qu'elle est tombée en panne, c'était dans la journée sur le parking d'une clinique à Saint-Jean-de-Luz, après avoir fait 30 km d'autoroute, et elle était fermée à clé. Et au retour, 2 heures après, la voiture ne démarrait plus.
Oh,
donc
ce
n'est pas spécifique à mon jardin ou au top,
et donc,
dans mon jardin.
Parce que vous n'avez plus de batterie, on est d'accord.
Ouais.
Hein.
Voilà,
est-ce que vous avez un frein à main? Il y a un frein à main électrique sur la voiture, on est d'accord.
Non, c'est un frein à main.
Avec un levier.
Avec un levier.
Tout à fait.
Ah, zut, zut, sinon j'avais une piste. Mais bon.
Alors je vais vous dire, j'en suis arrivé au point d'acheter un booster quand même.
Oui, mais c'est pas la solution. La solution, c'est de trouver la panne. Alors, bon,
voilà.
Vous m'avez dit, concessionnaire, il fait tout ce qu'il peut. On est d'accord. Alors, il n'y a pas déjà, à ma connaissance, de panne spécifique, comme vous me l'expliquez sur ce modèle-là, parce que ce serait un truc connu. Bon, on dirait tout de suite, voilà, ça peut être ça. Donc, cette panne aléatoire. Alors, moi, je peux pas plus vous aider que votre garagiste. En revanche, votre garagiste, il est un peu, c'est lui qui est dans l'embarras, parce qu'il a, vous savez, cette fameuse obligation de résultat. Donc, il doit trouver la panne. Quitte à faire appel à un sous-traitant pour trouver la panne.
Oui, ou un ingénieur de Volkswagen.
Exactement, un ingénieur réseau.
En plus, il ne sera pas mécontent de venir passer quelques jours à Bayonne, je pense.
Exactement.
Et il faut...
Ah pardon,
Biarritz,
bah, c'est pareil, non,
ouais.
Christian?
C'est pareil.
On est d'accord.
Au niveau équipe de rugby, non, hein, mais bon.
Rugby, c'est pas pareil.
Donc c'est quand même important de faire la distinction.
Absolument.
Mais un ingénieur réseau doit se pencher sur votre voiture pour trouver cette panne mystérieuse, ça c'est clair. Maintenant, moi, je j'ai pas d'idée comme ça. Le fait du consommateur de courant, j'ai revu Christine le film il y a pas longtemps la nuit. Elle se déplace pas toute seule votre voiture quand la nuit tombe.
J'espère bien que non.
Non, parce que vous me parliez d'un amour de coccinelle. C'est les voitures de cinéma, des fois, ça fait des trucs bizarres, hein, quand même.
Voilà.
Non, mais plus sérieusement, j'ai pas de solution à votre problème. Votre concessionnaire n'a pas de solution à votre problème. Il faut absolument lui demander un ingénieur réseau.
Vous n'avez pas installé une alarme sur votre voiture?
De se pencher sur le cadre
non,
de votre véhicule.
Non, il n'y a pas d'alarme.
C'est dingue, ça.
Il n'y a rien qui n'est pas d'origine.
La dernière solution qu'ils m'ont également proposée, c'était de retirer le fusible de l'allume-cigare. Je m'en fous puisque je suis pas fumeur et qu'on n'a jamais fumé dans mes voitures. Sauf que je leur ai rappelé qu'un allume-cigare, ça peut servir à recharger un smartphone. Donc,
c'est vrai.
Voilà.
Mais vous avez pas des ports USB. C'est une voiture récente quand même, 2018. Il y a pas de port USB sur la Golf, sur la coccinelle.
Il y a un port USB également.
Voilà. Vous pouvez recharger votre smartphone avec ce port USB.
C'est
hein.
Exact.
Débrancher l'allume-cigare. Mais attendez, l'allume-cigare, si jamais la nuit il y avait une consommation de courant à ce niveau-là,
oui.
il serait bouillant l'allume-cigare en permanence.
Mais bien sûr.
Vous le regardez de temps en temps, votre allume-cigare.
Surtout que dès que j'ai acheté la voiture, je l'ai retiré.
Je vois pas comment il peut y avoir une consommation à ce niveau-là.
Alors ce que j'espérais, c'est avec les millions et les millions d'auditeurs que vous avez.
Attendez, mais ça, bravo, Christian. Franchement, c'est une très très bonne idée. Si vous avez, comme Christian, des problèmes avec une Volkswagen, parce que j'imagine que c'est pas que sur les coccinelles que ça doit arriver. Hein. Enfin bref, coccinelle ou Volkswagen, ce type de problème, n'hésitez pas.
Dernier point, c'est qu'ils ont changé, bien sûr, la batterie au début. Après, ils ont changé un relais. Mais bon, la panne est toujours là. Et,
d'accord.
Et alors, l'autre problème, c'est que j'aurais pu me débarrasser de cette voiture et la rendre et acheter autre chose. Mais j'adore cette voiture, elle est très belle.
Ben oui, elle est mignonne.
C'est un modèle qui s'appelle Exclusive, qu'ils avaient sorti donc le dernier mois des constructions des coccinelles. Et comme j'aime bien les jolies voitures, j'arrive pas à m'en débarrasser. Quoi. Ouais. Sauf si elle, un jour, elle part toute seule.
Tiens, on a David qui nous dit peut-être le KLS à désactiver, donc le système qui permet d'ouvrir sans clé. Vous devez, dans les menus de la voiture, pouvoir le désactiver et essayer de désactiver ça.
Ouais, mais on est d'accord que c'est pas normal.
Non, même c'est si pas, on non, mais on est d'accord que
là, c'est
oui,
pas normal.
On est d'accord que c'est pas normal.
La voiture, voilà. si elle est livrée avec un KLS, elle doit pas se vider en quelques minutes. Enfin bref. Bon, Christian, on a bien compris.
J'ai une ultime question à vous poser qui n'a rien à voir.
Allez-y.
Vous avez essayé la Citroën Ami électrique?
Non.
Bon, moi non plus.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Ami, bon, elle a un nom sympathique, elle a une bouille qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est pas une voiture.
Non, ça, c'est un véhicule électrique.
C'est un quadricycle léger à moteur, donc qui rentre pas dans la catégorie des voitures. C'est un truc pour se déplacer uniquement en agglomération, qui roule à 45 km/h. C'est pas une voiture. Moi, je trouve que bon, ils occupent, on va dire, un petit peu le créneau. Avec ça, ça fait de la communication, mais c'est pas une vraie voiture.
Pourquoi vous vouliez, vous êtes intéressé par ça?
Moi, je suis un adepte du vélo électrique, sauf que l'hiver et quand il pleut, j'envisageais
Si jamais vous avez une côte près de chez vous, vous allez être malheureux. Hein. Vous savez, moi, l'unique fois où j'ai essayé un quadricycle lourd à moteur électrique, j'ai une côte de 19% pour arriver chez moi, j'ai cru que j'allais pas arriver en haut. Je suis arrivé en haut, j'étais à 5 km/h et tout le monde me klaxonnait derrière et j'ai eu droit à un florilège de noms d'oiseaux quand les gens m'ont dépassé dans le rond-point, quoi. C'est pas adapté à plein de choses. Donc c'est pas une voiture, on fait encore pas d'essai ni de patinette, ni de vélo électrique. Mais
Christian, ça c'est moi j'ai des amis qui l'ont testé, des journalistes à 01net qui l'ont testé, qui trouvent ça très sympa, hein. Mais c'est limité à 45 km/h, c'est une toute petite voiture, vous pouvez pas prendre l'autoroute avec, vous pouvez pas, enfin il y a
non, c'est une voiture,
il y a même plein de routes,
c'est pour aller chercher le pain, quoi. Ouais, c'est pour ça. Aller chercher le pain et rentrer, c'est tout.
Bon, écoutez, merci
Christian,
beaucoup.
Merci
et bonne journée à vous.
Et au on revoir, vous tient Christian. Au courant pour ce problème. On a, tiens, Laurent qui nous dit possibilité du Bluetooth sur l'autoradio, mais le Bluetooth est coupé quand le véhicule est éteint, en théorie.
Oui, puis le Bluetooth ça consomme pas beaucoup, hein.
Non, mais même, en théorie, la voiture est, on sort de la voiture, vous l'éteignez, le Bluetooth s'éteint. 8h-20, c'est RMC, il est temps de retrouver notre minute verte.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Tiens, Claude qui justement réagit sur l'Ami, qui nous dit, moi je l'ai essayé, c'est bien en ville simplement. Voilà. Mais après, c'est son objectif.
C'est ce qu'on vient de dire, hein. C'est bien en ville, c'est tout.
Et Medeb qui nous dit aussi pour Christian, essayer de débrancher la batterie. Mais bon, après, ça règle pas les problèmes. Oui, on débranche la batterie et qu'est-ce qu'on fait?
Il y a un consommateur électrique, voilà. Si à chaque fois, faut débrancher la batterie.
Et puis on débranche la voiture, la voiture marche après?
Je sais pas, c'est propre à chaque véhicule, pratiquement. Donc,
oui, parce qu'il y a des voitures qui ne marchent plus.
Il faut réinitialiser derrière.
C'est toute une pagaille.
Il y en a même qui démarrent pas.
En plus. La minute verte, Jean-Luc, le Royaume-Uni peut-il arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2030?
Alors déjà, on va préciser, parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine, on va préciser le voiture thermique, parce que tout le monde a repris le truc en disant « Ouais, on va interdire les voitures thermiques ». Alors déjà, dans la communication officielle britannique, on parle des voitures et fourgonnettes qui utilisent un combustible fossile. Alors, qu'est-ce que c'est? Fossile, vous savez ce que c'est? Vous en mettez tous les soirs avec des talons hauts quand vous allez... quand vous allez danser, enfin quoi qu'en ce moment ça doit être plus compliqué, François, mais autrement, on va dire
elle
que...
Elle était pas mal, on va lui mettre la moyenne.
Les carburants fossiles...
Sauf que vous l'avez fait 25 fois depuis toutes ces années, mais bon, il n'y a que moi qui m'en souviens.
Depuis toutes ces années, vous n'avez pas arrêté d'aller danser le soir à l'Alcazar?
En ce moment, c'est compliqué.
Oui, c'est vrai.
Vous avez fait rire Alexandra, notre productrice, c'est bien déjà.
Parce qu'elle vous imagine, je pense, en tutu avec des talons hauts.
Oui, je pense.
Ça doit être ça.
Ça doit bien la faire rigoler, ouais, ça, c'est clair.
Mais je vous ai vu, hein, c'était dans ce film de Walt Disney, là, Fantasia. Bon,
si on enchaînait, non?
Si, ouais, pour redevenir sérieux. Donc, carburant fossile, c'est-à-dire essence et diesel. Donc, au-delà de ça, le super-éthanol, bon, alors en Angleterre, il n'y en a pas, hein. Donc, de ce côté-là, ils sont tranquilles, mais par exemple, le super-éthanol E85 pourrait continuer à être commercialisé pour faire marcher des moteurs thermiques, des moteurs à combustion interne, on va dire. On pourrait également utiliser du biodiesel. On peut également utiliser, vous savez, il y a des carburants de synthèse qui vont bientôt arriver sur le marché.
Oui.
Le GPL, alors vous allez me dire, le GPL, oui, mais c'est un carburant fossile. Le GPL est en train d'évoluer et il y a du bio-GPL qui arrive également. Donc, on pourrait faire rouler des voitures au gaz qui seraient non issues du pétrole. Donc, ça veut dire que ça n'est pas la disparition du moteur à combustion interne. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il a dit en 2035, c'est la fin des véhicules hybrides. La fin des véhicules hybrides simples. L'hybride rechargeable ne devrait pas être concerné par cette mesure. Maintenant, au-delà de ça, alors, c'est vrai que...
Enfin, c'est quand même assez contraignant.
Non, mais c'est vrai que la démarche de dire on va accélérer le pas pour passer à plus d'électrification du marché, on peut
c'est
pas
un peu
aller...
le sens de l'histoire.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est le sens de l'histoire, on ne peut pas aller contre ça. Maintenant, de dire on va le faire à marche forcée pour imposer en 2030, en gros, pour vendre le moins possible de voitures à moteur thermique pour passer à l'électrique, moi je dis ok, les constructeurs ils feront le job. Il y aura un parc de voitures suffisamment abondant à des prix à peu près accessibles pour tout le monde, avec des batteries qui vont permettre de faire 500, en 2030 sans doute 1000 km,
oui.
Et de recharger en 10 minutes. Ça sera possible.
Encore faut-il qu'il y ait des bornes.
Mais voilà, vous avez mis le doigt exactement là où ça fait mal. Et l'Angleterre n'est pas mieux placée que la France dans ce domaine. Et d'ici 2030, on n'aura pas un réseau de bornes de charge ultra rapide. Parce que là, on parle de bornes ultra rapides qui seront capables de délivrer 350 kW pour les voitures qui pourront prendre du 350 kW. Donc, il n'y aura pas le réseau de bornes. Il n'y aura pas non plus... Renouveler un parc de véhicules, c'est entre 20 et 25 ans. Donc ça veut dire que les pauvres vont rouler sale, donc on va les taxer encore plus, puisqu'on dira vous roulez avec un carburant sale, donc on va vous taxer encore plus, et les riches rouleront en électrique, et puis quand ils vont plus loin, bah, ils prendront l'avion. Franchement, dans la démarche écologique, il y a un truc qui coince quand même. Donc cette annonce, elle est un peu prématurée pour moi. Sur le fond, c'est dans le sens dans lequel il faut aller.
Mais disons que 2030, sur c'est une échéance assez courte. Quand
sur la forme de dire en 2030, on interdira les moteurs à combustion interne qui fonctionnent avec des carburants fossiles. Franchement, c'est très, très utile.
8h moins le quart, Jean-Luc. Tiens, le problème de Christian et de sa coccinelle. On a Jeff qui nous dit « Bonjour les amis, pour la coccinelle, je travaille chez Volkswagen. Nous avons eu le cas et après plusieurs jours de recherche, c'était une lumière dans le coffre qui restait allumée en quasi-permanence dans le coffre, même fermé. »
Eh ben voilà, tiens, ça fait une piste.
Ça fait une piste, Christian.
Ça fait une piste pour Christian.
Eh ben voilà.
Donc faut qu'il s'enferme dans le coffre, dans sa voiture. Sa femme ferme à clé
la voiture
avec lui dans le coffre.
Et on voit ce qui se
vivant
passe.
De préférence, hein, quand même, qu'il puisse savoir s'il y a vraiment de la lumière.
Évidemment.
Et le lendemain matin, donc il se réveille tranquillement et il expliquera combien de temps la lumière est restée allumée.
Avec 0 degré en plus.
Oui, voilà.
Donc, tout va bien.
Il va être bien. Il va être bien.
Allez, on revient dans un instant en plaisante, mais en tout cas, merci pour vos petits tuyaux et votre aide. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans un instant. On repart avec Jean-Pierre qui va nous parler de son C4 Air Cross qui lui aussi tombe en panne, plusieurs fois d'ailleurs. Et il va nous expliquer pourquoi et on va essayer de régler son problème. A tout de suite pour votre auto sur RMC.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà de retour, 7h48, le week-end des experts l'automobile, sans plus attendre, on repart avec vos questions, Jean-Pierre est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour François.
Bonjour Jean-Pierre.
Et merci d'avoir sélectionné mon appel.
Bienvenue Jean-Pierre, alors parlez-nous de votre C4 Air Cross.
Alors voilà, c'est un C4 Air Cross HDI 115 de 2014.
Oui.
Il a 59 000 km.
D'accord.
Et depuis, j'ai tombé trois fois en panne. Une fois à cause du FAP. La seconde fois en 2017 à cause d'un injecteur. Et maintenant, à 59 000 km, on me propose de remplacer trois autres injecteurs. Alors, je voudrais savoir si...
Alors, plusieurs... Alors déjà, Jean-Pierre, vous avez... Hélas hélas, vous n'avez pas choisi le bon moteur au départ, parce qu'il y avait deux moteurs qui étaient disponibles. Alors, c'est un Mitsubishi au départ, hein, ce fameux C4R Cross qui a été également vendu par Peugeot sous le nom 4008 et qui était dispo avec deux moteurs. Il y avait le moteur PSA 1 litre 6 HDI, donc que vous avez sur votre véhicule, 115 chevaux. Oui. Et il y avait le 1 litre 8 HDI qui était un moteur Mitsubishi, 150 chevaux, qui lui est un petit peu moins sujet aux pannes que le moteur PSA, malheureusement. Mais on va dire que les problèmes d'injecteurs, de distribution, il y a même des problèmes de pompe à eau qui ont été relevés sur le 1 litre 6 HDI. Malheureusement, c'est pas d'une fiabilité extraordinaire. Alors le truc, en plus, votre voiture, vous faites quoi comme type de trajet avec ?
Uniquement de la route, parce que c'est un second véhicule.
Ah oui.
Et là, je fais uniquement de la route et de l'autoroute. Hein.
Ça a été pris en charge, le changement de l'injecteur par Citroën ?
Oui, tout à fait. Le premier injecteur, on est tombé en panne donc, dans la région de Lézignan, sur l'autoroute, ça a été pris en charge donc, par Citroën. Et là, maintenant, ils me proposent la prise en charge des trois autres. Puisque le premier était remplacé en 2017. Et par contre, la main-d'œuvre, il me la facture.
Ah, il vous facture attendez, il est de quelle année votre véhicule ?
Alors, 2014.
2014.
Il y a 59 000 kilomètres.
Ouais, vous roulez pas beaucoup en plus. Donc,
et voilà, ma question est d'autant plus que nous faisons que de la route avec, parce que nous avons un second véhicule.
Mais de la route, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous appelez route ? De la petite route ? Faites quoi comme type de trajet ?
Ah non, de la grande route.
De la grande route.
C'est national et autoroute. Hein.
D'accord. Donc vous avez le temps de laisser chauffer le véhicule.
Ah, tout à fait.
Et vous roulez à 130 quand vous êtes sur l'autoroute.
Tout à fait. On pousse un peu les vitesses aussi, parce qu'il faut...
D'accord, ouais.
Et c'est la question, je ne m'explique pas. Donc moi, je sais qu'on est plus dans le cadre là des garanties 5 ans.
Ah ben non, mais même plus rien. Vous êtes plus du tout. Vous n'avez plus la garantie commerciale. Vous n'avez plus la garantie des vis cachées. Alors avant de changer les trois autres injecteurs, parce que franchement là, il va y en avoir pour chaud. Essayez quand même de faire un traitement en atelier pour nettoyer les injecteurs. En même temps, faire un nettoyage de filtre à particules, parce que votre problème, en fait, c'est ça. Hein, c'est enfin tout vient des injecteurs qui commencent à s'encrasser. Qui ensuite font pas leur boulot pour arriver à régénérer le filtre à particules et c'est des pannes en cascade par la suite. Donc là, votre voiture, elle commence déjà à être bien prise. Donc essayez de faire un traitement en atelier. Je vous dis pas que ça va fonctionner, hein. Mais commencez par ça. Ça va vous coûter 90 euros, alors que les trois injecteurs qui vont peut-être pas régler totalement le problème, parce que vous avez peut-être aussi un problème d'encrassement de GR, et puis le filtre à particules, si les injecteurs ont des problèmes, c'est sûr qu'il est bouché également.
Oui, mais d'autant plus que le véhicule, il est chez Citroën actuellement, parce que je suis tombé en panne, il est chez Citroën, mais ils prennent en charge les injecteurs.
Charge les injecteurs, d'accord.
Ah oui, ils prennent en charge les injecteurs, ils ne me facturent que la main-d'œuvre. Hein.
Bon, bah écoutez, estimez-vous déjà heureux, hein, quand même.
Oui, je le remercie, c'est Citroën, Toulouse, États-Unis. Mais par contre, dans la mesure où il y a eu un premier problème en 2017 sur l'injecteur, donc ça voulait dire qu'ils
reconnaissaient
éventuellement le défaut de ces injecteurs.
Oui.
Alors ma question, est-ce que pourquoi ils n'ont pas remplacé les quatre puisqu'ils étaient en défaut enfin.
Ben, c'est une bonne question. C'est pas moi qui ai la réponse, hein. Ça, cette question-là, faut la poser à votre.
C'est ton avis.
Eh oui. On change pas un injecteur. On se doute que, sauf s'il y a vraiment une casse sur l'injecteur en question. Mais en général, ça provoque d'autres pannes sur le moteur. Mais quand on commence à avoir des problèmes d'encrassement ou de défaut d'injecteur comme ça, en général, on change tous les injecteurs.
Oui. Et j'ai fait un courriel, donc, à Citroën Toulouse, États-Unis. Et leur demandant pourquoi trois injecteurs et pas quatre, parce que là, on repartirait sur quatre neufs. Et mais non, parce que le premier, il a été remplacé en 2017 sous garantie. Voilà l'explication qu'ils me donnent.
Ouais, bon, quelque part, c'est... vu qu'ils ne vous font pas payer les injecteurs, ça se tient un peu, parce que ça coûte cher, un injecteur.
Oui, il y en a pour, les trois, il y en a pour 1300 euros.
Ben
oui. Parce qu'ils m'ont fait le devis séparé des deux main-d'œuvre et...
Ils vous mettent des injecteurs neufs ou des injecteurs reconditionnés, est-ce que vous le savez ?
Ah ben là, moi, les tarifs, ce que j'ai,
c'est pour du neuf. D'accord.
C'est 1300 euros de TTC, donc je pense que oui, c'est du
neuf. C'est pas sûr.
Ah bon,
non, mais bon, qu'il soit neuf ou reconditionné, ça marche exactement pareil. Le seul truc, c'est que quand vous payez de votre poche, c'est mieux de mettre des reconditionnés que des neufs. Vous faites quand même une économie de 50%.
Mais là où ça m'inquiète, est-ce que vous me parlez du FAP? Mais le FAP, le véhicule, il a été rappelé 4 mois après l'achat, donc pour un contrôle de FAP, et je suis tombé en panne 1 an après, deux ans après, je suis tombé en panne du FAP. Il y en a eu pour 700 euros de réparation.
Ah oui, mais...
Et donc, il retombe en panne tous les combien, le FAP
enfin, le alors, Jean-Luc n'est pas dans la voiture. Hein.
Je ne peux ça, pas vous dire pas si tous vous les combien, remarqué. Mais je peux vous dire que s'il y a des problèmes d'injecteur, le FAP, il a forcément mangé un peu. Hein. Donc, il va falloir au moins, quand ils vous auront changé les injecteurs, faire un nettoyage de FAP forcé en atelier. Ça existe aussi. Donc ça, je vous conseille fermement de le faire.
Jean-Pierre, merci. Allez, avant de retrouver la météo et les infos de 8h, l'actu dans le monde de l'automobile. Et Honda, qui reçoit la certification de niveau 3 pour la conduite automatisée.
Oui, le constructeur japonais est le premier au monde à recevoir cette certification.
C'est un petit événement. Hein,
ouais,
même,
il faut
hein.
préciser que l'autorisation de circuler n'est valable qu'au Japon et dans des circonstances très particulières qu'on évoquera plus loin. La conduite automatisée de niveau 3, c'est le premier niveau totalement autonome. Ça signifie que le conducteur peut quitter la route des yeux, lâcher le volant et lâcher les pédales. Hein. Le véhicule se substitue totalement au conducteur. Toutefois, la Honda Legend qui sera lancée au printemps avec ce système ne pourra être utilisée en conduite automatisée que sur autoroute et à une vitesse inférieure à 50 km/h. Ça fait, bon, en France, ça fait quand même assez peu d'autoroutes. C'est des autoroutes urbaines au Japon.
Ah, c'est pour ça. Les autoroutes urbaines au Japon, c'est dans les deux informations qui sont incompatibles.
Ouais, voilà, ça limite d'accord. beaucoup les cas de figure. Ouais. D'ailleurs, même si la voiture conduit seule, le conducteur doit tout de même être en mesure de reprendre le contrôle lorsque le véhicule émet un signal d'alerte. Il émet un bip et là, on doit reprendre le contrôle. On est donc encore loin de la voiture qui vous emmène d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine.
Oui, mais c'est un petit plus,
c'est un supplémentaire. C'est une brique supplémentaire, on va dire ça.
Et c'est étonnant que ce soit Honda. Hein, on ne les attendait pas forcément, à ce niveau-là. Les assureurs profitent-ils de la crise sanitaire, Jean-Luc?
Ouais, cette semaine, c'est l'association UFC Que Choisir qui repose la question après avoir pointé du doigt les 2,2 milliards d'euros économisés par les assureurs auto et moto lors du premier confinement. L'association de consommateurs dénonce aujourd'hui des hausses de tarifs programmées pour l'an prochain. Malgré une baisse de la sinistralité importante, les contrats d'assurance de véhicules motorisés devraient en effet augmenter en moyenne de 2% en 2021. Inadmissible pour UFC Que Choisir, qui dénonce aussi la politique deux poids deux mesures pratiquée par ces derniers. Ils refusent en effet publiquement de rétrocéder cette manne, mais consentent des réductions aux assurés qui font des demandes individuelles.
Jean-Luc, on va revenir dans un instant. Vous le savez, la météo, les infos. On attaquera notre deuxième partie dédiée à l'automobile avec vos questions au 32-16. Les 20 premières voitures de l'année, de 64 à 83, on se replongera un petit peu dans le vintage. Ça sera aussi l'essai de la semaine tout à l'heure. Et l'essai de la semaine, ce sera une Ford Puma hybride. Vous restez avec nous. Météo Info, on est de retour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.